Nous sommes dans la deuxième année après la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël est aux portes de la terre promise, dans le désert de Paran. C'est alors que Moshe, sur l'ordre de Dieu, envoie 12 hommes en exploration. Il ne s'agit pas de n'importe qui, ce sont les chefs de file, l'élite intellectuelle et spirituelle de chaque tribu. Moshe leur donne une feuille de route très précise. Observez le terrain, est-il gras ou maigre? Observez les habitants, sont-ils forts ou faibles? Observez l'habitat, vivent-ils dans des camps ouverts ou dans des villes fortifiées? En somme, il leur demande un compte-rendu exhaustif. Ils partent pendant 40 jours. Ils parcourent le pays. Et là, ils sont confrontés à un double choc. D'abord, la fertilité excessive de la terre. Ils rapportent une grappe de raisins si lourde qu'il faut être deux pour la porter sur une perche. Ensuite, la démesure des habitants. Ils voient des géants, face auxquels ils se sentent comme des sauterelles. Au retour, le rapport commence bien. C'est une terre où coule le lait et le miel. Mais soudain, un mot vient tout faire basculer. Éphès. Cependant. Néanmoins. À partir de ce néanmoins, le rapport factuel se transforme en interprétation terrifiante. C'est un pays qui dévore ses habitants. Le peuple sombre alors dans la panique. On pleure, on veut nommer un nouveau chef pour retourner en Égypte. La sanction divine tombe, implacable. Puisque vous avez pleuré pour rien, vous resterez 40 ans dans le désert. Cette génération s'éteindra dans le sable et seuls ses enfants entreront en terre d'Israël. Pour éclairer ce récit, je voudrais m'appuyer sur une dracha, une leçon, de Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, plus connu sous le nom de son œuvre, le Sfat Emet. Je reprendrai ici l'interprétation qu'en propose le Rav Tamir Granot, spécialiste de la Chassidoute. J'ai choisi cette analyse de la faute des explorateurs parce qu'elle prend le contre-pied des reproches habituellement formulés à leur encontre, selon lesquels ils n'auraient pas été prêts à quitter le mode de vie du désert, caractérisé par les miracles quotidiens, pour se confronter à la vie matérielle, concrète et autonome d'un peuple aux prises avec sa terre. Voici ce qu'écrit le Sfat Emet au sujet de la faute des explorateurs, en des termes qui sembleront à une première lecture énigmatique, voire incompréhensible, et dont nous tenterons de déchiffrer la signification. Je cite. « Mais en vérité, écrit le Sfat Emet, la dimension d'Eretz Israël est identique à celle du roi David, dont il est dit qu'il n'a rien par lui-même. Cela signifie qu'elle n'a aucune nature fixe, déterminée, mais qu'elle est uniquement ce qu'elle reçoit de la conduite divine. C'est le sens du verset « Les yeux de l'Éternel son Dieu sont sur elle, car elle est sous une providence constante. » Les explorateurs, qui étaient les chefs des enfants d'Israël, poursuit le Sfat Emet, ont voulu saisir la lumière de la terre par leur intelligence. Pourtant, l'intelligence humaine est comparable à une intelligence animale face à la conduite divine. Après le don de la Torah, qui était une forme d'accession à la connaissance, l'objectif aurait dû être qu'ils s'effacent totalement devant la seule bonté de Dieu. Ils ont porté attente à cela en voulant marcher par leur propre force et leur propre savoir. C'est pourquoi il fut décrété contre eux un retard de 40 ans, jusqu'à ce que cette forme d'intelligence propre à la génération du désert soit annulée. Fin de la dracha du Sfat Emet. Pour appréhender le problème mis en évidence par le Sfat Emet, il faut comprendre, explique le Rav Granot, que cette dracha est à lire en écho avec une autre, prononcée, elle, à l'occasion de la parashat Lech Lecha, qui nous fait le récit de l'injonction divine à Avraham. « Va pour toi, hors de ton pays, hors de ton lieu de naissance et hors de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. » Le Sfat Emet soulève une question fondamentale. Pourquoi Dieu maintient-il ce flou au sujet de la terre promise? Pourquoi ne pas nommer Canaan d'emblée? Pourquoi ne pas donner à Avraham le savoir, la connaissance de ce vers quoi il se dirige? Pour le Sfat Emet, le « va pour toi », l'Ech Lecha, et l'expression « la terre que je te montrerai » ne sont pas de simples dispositifs d'épreuve destinés à s'effacer une fois la destination atteinte. Il ne s'agit pas d'une énigme dont on finirait par trouver la solution géographique. Non. Le « Lech Lecha » est la posture ontologique du juif. Être le descendant d'Avraham, c'est être structurellement en chemin. Spirituellement, le serviteur de Dieu ne possède jamais la vérité ou la terre. Il est celui qui va. De la même manière, Eretz Israël n'est pas une donnée fixe que l'on finit par connaître totalement. Elle reste, par essence, une terre que je te montrerai. Elle conserve toujours une part d'inconnu, une dimension qui échappe à l'inventaire. C'est la caractéristique de base du lien entre le peuple d'Israël et sa terre. Un horizon qui se dévoile progressivement, mais qui ne se laisse jamais enfermer dans une définition. Et c'est précisément ici que se joue le drame des explorateurs. Au moment où le projet devient national, juste avant l'entrée en terre d'Israël, la question posée des siècles auparavant à Abraham est posée cette fois au peuple tout entier. Comment allez-vous appréhender votre lien à cette terre? Allez-vous y venir comme des propriétaires, munis d'un plan définitif, ou comme des héritiers d'Abraham, acceptant que la marche elle-même soit l'enjeu? Comprendre la tragédie des explorateurs nécessite de remonter à l'origine du processus, bien avant la calomnie explicite et la révolte. Le défi est de taille. Comment 12 princes d'Israël, choisis par Moshe et Dieu, auraient-ils pu partir avec l'intention préméditée de trahir leur mission? Au départ, les explorateurs ne font que remplir leur mission technique. Ils décrivent la beauté de la terre et la puissance de ses habitants. S'ils ont été envoyés pour observer, pourquoi leur reprocherait-on d'avoir dit ce qu'ils ont vu? Pour le Sfat Emet, la faute n'est pas une rébellion brutale de l'ego, mais une déviation, minuscule au départ, qui finira par créer une brèche béante, qui mènera à la faute et au désastre. Le point central de la dracha du Sfat Emet est le suivant. Ils voulaient tout saisir par leur propre intellect afin d'y être préparés. Les explorateurs ne cherchaient pas à mal faire. Ils voulaient entrer en Eretz Israël avec une compréhension totale. Leur objectif était de sortir de la dépendance passive par rapport à Dieu ou à Moshe et de s'approprier le processus par l'intelligence. À la fois comprendre le sens, pourquoi entrons-nous dans cette terre, et maîtriser la stratégie, quels sont les moyens, tant concrets que spirituels, pour y réussir. À l'image d'un entrepreneur moderne, qui définit tout d'abord une vision générale de son projet, puis met en place des objectifs concrets et les moyens qu'il compte emprunter pour les atteindre, les explorateurs voulaient une maîtrise complète de leur histoire. Ils pensaient qu'on ne peut s'engager dans un projet aussi colossal sans en avoir anticipé tous les obstacles, militaires, politiques, géographiques. C'est là qu'apparaît le mot fatal, Éphèse. Pourtant, cependant, ils ne souhaitaient au départ ni critiquer ni se mettre en valeur, mais analyser des risques auxquels ils voulaient se confronter par leur propre force. Ils désiraient que la conquête d'Israël se fasse par leur mérite et leur responsabilité, en toute connaissance de cause, en pleine maîtrise. Leur tort fut de vouloir transformer une marche miraculeuse et transcendante en un projet humainement gérable et intellectuellement prévisible. En voulant substituer la maîtrise rationnelle à la confiance absolue, l'abandon au divin, ce que le Sfat Emet appelle dans sa dracha « Da'at HaBehema », la pensée animale, ils ont ouvert la porte à la peur. Ce qui commença comme une volonté de responsabilité adulte finit en une perte de direction spirituelle totale. Quel est au fond le problème identifié par le Sfat Emet? Il l'énonce de deux manières complémentaires. La première, c'est que cette volonté de compréhension, de savoir et de maîtrise, bien que louable dans d'autres contextes, est antinomique avec l'essence même des Eretz Israël. Le Sfat Emet nous enseigne que la terre d'Israël possède la même dimension que le roi David, qui, nous dit-il, est celui qui n'a rien par lui-même. Le Sfat Emet fait ici appel à un concept kabbalistique. Eretz Israël, comme le roi David, incarne la séphira, la tribu, de la royauté. Sa caractéristique fondamentale est paradoxalement de n'en avoir aucune. Elle n'a pas d'existence indépendante ou figée. Elle est au contraire une pure capacité d'accueil, de réception et d'adaptation. Elle est le réceptacle qui contient et donne forme aux forces qui la traversent. C'est le sens du verset des psaumes où David dit que son cœur est vide au-dedans de lui. Le roi n'est pas la matrice de la force ou du savoir, mais leur foyer, celui qui est capable d'accueillir toutes les forces du peuple pour leur donner un contenant. De même, contrairement aux autres pays qui ont des caractéristiques propres, la caractéristique d'Eretz Israël est qu'elle n'en a pas. Eretz Israël se définit par une absence d'attributs fixes, ce qui engendre une instabilité fondamentale sur tous les plans. On le voit par exemple au niveau climatique. Israël est le point de rencontre de trois systèmes climatiques majeurs qui s'affrontent et se superposent sur un territoire minuscule. Et on y trouve donc à la fois un climat méditerranéen, un climat désertique et un climat steppique. Cette instabilité se retrouve au niveau politique, puisqu'Israël se trouve à la charnière de trois continents, ce qui en fait l'objet de rivalités constantes, et au niveau religieux, puisque les trois monothéismes s'y affrontent et se la disputent. Cette terre est ainsi ouverte à une multitude de possibilités sur tous les plans, sans jamais présenter un seul tressaillant qui permettrait de la définir une fois pour toutes. Cette absence de cadre matériel figé rend toute planification classique impossible. Habituellement, pour élaborer un programme ou une stratégie, on s'appuie sur des données géographiques et topographiques stables afin de définir des buts et des outils. Mais face à Eretz Israël, la seule réponse possible à une tentative de définition rigide est que tout peut arriver. C'est ici que se loge la dimension divine. Là où l'existence concrète est pleine et achevée, la présence de Dieu semble s'effacer derrière la solidité du décor. À l'inverse, dans cette terre ouverte et inachevée, ce qui survient relève directement de l'intervention divine. Son élection ne repose pas sur ce qu'elle est physiquement, mais sur le fait qu'elle est l'objet, en permanence, de l'attention divine. Le Sfat Emet énonce alors une seconde dimension fondamentale, celle de la nature de notre lien à cette terre. Eretz Israël n'est pas notre patrie au sens où leur pays l'est pour les autres nations, au sens d'un terroir, au sens d'un attachement construit par un ancrage séculaire. Pour le peuple juif, le lien n'est pas premier ou immédiat, il est une conséquence. Notre relation à la terre est médiatisée par un lien antérieur et plus profond, celui que nous avons avec Dieu. Pour Abraham comme pour le peuple, c'est le lien avec Dieu qui est premier, et c'est de lui que découle secondairement le lien à la terre d'Israël. Même si au fil des siècles, un attachement charnel s'est naturellement créé, le socle de notre présence n'est pas une symbiose génétique avec le sol, mais l'aboutissement d'un ordre divin. La terre constitue en réalité la troisième pointe d'un triangle dont la base est la relation entre Dieu et Israël. On retrouve cette même structure avec la Torah. Notre présence sur la terre est l'expression d'un lien préalable avec celle-ci. Les prophètes ne cessent de le répéter, la résidence en Israël dépend de la fidélité à cette alliance première. Cette dynamique rejoint le premier point développé par le Sfat Emet. Si la terre possédait des caractéristiques matérielles fixes, elle imposerait ses propres lois de fonctionnement, de façon autonome. Mais puisqu'elle est par essence une terre de réception et d'ouverture au divin, tout y dépend de cette relation primordiale avec Dieu. Cela signifie que la conscience de celui qui s'apprête à entrer en Israël ne peut pas suivre le modèle classique de la gestion de projet, faite d'objectifs définis et d'outils calibrés. Nous entrons en Israël sur l'ordre de Dieu. C'est lui qui fixe le dessein et les buts. Parce que sa vision est infinie, nous ne pouvons pas aborder cette mission comme une simple entreprise humaine et rationnelle. La destination finale ne nous est pas totalement accessible. Elle se révèle avec le temps, selon un rythme qui n'est pas le nôtre, et jamais dans son intégralité. Cette posture n'est pas seulement vraie pour la nation, elle l'est pour chaque individu dans le service divin. L'homme qui sert Dieu sait que ses plans et ses horizons sont nécessairement limités. Il reste à l'écoute d'une volonté supérieure qui peut, à tout moment, lui ouvrir d'autres voies, lui demander de changer de chemin. Il ne fige rien dès le départ. C'est une autre manière d'habiter le monde. Cette approche n'annule pas la rationalité humaine, dont nous avons besoin pour agir, mais elle en réduit le niveau de certitude. Elle substitue à la rigidité des plans une ouverture et une écoute constante. Qu'est-ce que Dieu attend de moi, ici et maintenant ? C'est sur cette base, et seulement ensuite, que l'homme construit sa vie à son propre niveau. Face à l'exigence de cette marche vers l'inconnu, les explorateurs ont reculé. Pour eux, on ne peut pas avancer avec pour seule boussole l'incertitude et l'infini. Ce qui, d'une certaine façon, prouve que c'est bien là le problème, c'est la réponse que Caleb, l'un des explorateurs, adresse au peuple suite aux propos de ses pères. « Montons, nous monterons et nous prendrons possession d'elle, de la terre, car nous l'emporterons sûrement sur elle », s'écrit-il. L'expression hébraïque que j'ai traduite ainsi signifie littéralement « car pouvoir nous pourrons pour elle ». Et ce verset illustre un problème récurrent, celui de la quasi-impossibilité d'une traduction fidèle et adéquate du texte biblique. Caleb, on le voit, refuse de s'engager sur le terrain de la démonstration. Ses propos semblent vides de contenu technique. Là où les explorateurs déploient des arguments concrets, stratégiques et factuels, Caleb répond par une pure affirmation. « Nous réussirons malgré tout ». Il ne cherche pas à réfuter les analyses des explorateurs, point par point, car il comprend que le véritable enjeu n'est pas logistique, mais moral. Son but est d'insuffler au peuple une assurance et une confiance qui dépassent les faits. Le drame réside dans ce dialogue de sourds. Les explorateurs ne sont pas prêts à emprunter ce chemin de la confiance absolue. Ils exigent un programme, un calendrier, une visibilité sur le déroulement des événements. Caleb s'adresse au peuple et non aux explorateurs, car il sait que ces derniers, enfermés dans leurs besoins de certitudes précises, ne peuvent plus l'entendre. C'est à ce moment que la rupture se produit et que la radicalisation commence. Ce qui était au départ une quête de clarté et de maîtrise bascule dans la violence et finit par la calomnie contre la terre. Ainsi, avant la faute, il y a une racine intellectuelle et spirituelle authentique au conflit, la confrontation entre le besoin humain de maîtrise et l'appel divin au dépassement. Le Rav Granot, directeur d'Orot Shaul, une yeshiva tesder, c'est-à-dire une académie talmudique qui combine l'étude de la Torah avec le service militaire dans l'armée israélienne, qui a perdu son fils Amitai tandis que celui-ci combattait, après le 7 octobre, pour protéger la terre d'Israël dont il est question ici, note que cette analyse prend tout son relief lorsqu'on la replace dans son contexte historique. Nous sommes en 1892, l'année de la grande assemblée des Chovevei Tzion, ce mouvement des amants de Sion qui prônait un retour concret à la terre par le travail agricole, avant même l'émergence du sionisme politique. C'est le moment, dans la modernité européenne, où s'écrivent les premières déclarations structurées sur l'installation concrète en Eretz Israël. On y définit des plans, on organise l'achat de terres, on planifie l'avenir. Le Sfat Emet, qui ne commente jamais directement l'actualité dans ses drachot, livre pourtant peut-être ici la racine spirituelle de sa réticence envers le sionisme. Sa position est subtile. L'histoire de la relation de la dynastie de guerre avec le sionisme est complexe et loin de se réduire à une opposition frontale. Guerre sera plus tard le pilier de l'Agudat Israël, mouvement orthodoxe qui, s'il n'est pas sioniste, est pragmatiquement engagé en terre d'Israël, et le fils du Sfat Emet, l'Imre Emet, effectuera plusieurs voyages en Israël dès les années 1920. Bien qu'il ait envisagé de s'y installer en 1925 et qu'il ait encouragé l'achat de terres, il fut contraint par ses chassidim de rester en Pologne pour diriger la communauté. Guerre a ainsi toujours soutenu une forme d'implantation religieuse en Israël, tout en se méfiant de la planification purement humaine du mouvement sioniste. Cependant, au-delà des débats classiques sur la rédemption divine ou la laïcité du mouvement, le Sfat Emet identifie un point de friction plus profond. Il établit un parallèle implicite entre les dirigeants sionistes et les explorateurs. Son message est clair. On ne peut pas venir en Israël en croyant tout savoir d'avance, avec des objectifs intégralement définis. On ne peut pas aborder cette terre comme n'importe quel autre territoire, ni le peuple juif comme n'importe quel autre peuple. Le Sfat Emet touche ici au cœur du moteur sioniste. Cette volonté de prendre ses responsabilités, de ne plus attendre, de définir une vision, une langue et un homme nouveau. C'est l'immense force du sionisme, mais c'est aussi, selon lui, le germe de son échec potentiel. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Vouloir substituer un programme rigide à l'incertitude spirituelle, c'est risquer de briser la nature même de notre lien à la terre. La Géoula, la délivrance, peut certes advenir par cette méthode, mais le prix à payer risque d'être extrêmement élevé. Pour le Sfat Emet, l'histoire juive exige de conserver la posture d'Abraham, accepter l'inachevé, rester flexible et admettre que le programme peut changer. L'histoire n'est jamais une mission que l'on achève selon un plan préétabli. Croire que l'on a atteint son but par la seule maîtrise de la réalité concrète, c'est oublier que sans cette ouverture à l'inconnu divin, le succès du début peut se transformer, à terme, en un épuisement spirituel. Bien entendu, cette analyse de la réticence du Sfat Emet face au sionisme ne prétend pas épuiser le sujet. Elle n'est qu'une proposition d'interprétation qui ouvre des pistes de réflexion bien plus vastes sur la tension entre activisme humain et décision de se remettre entre les mains de Dieu. Au-delà du contexte historique, cette dracha demeure fascinante par sa polyphonie. Elle peut se lire simultanément à plusieurs niveaux. Celui du destin national d'un peuple lié à sa terre, celui de la relation intime de l'homme avec son créateur. En nous invitant à remettre en question notre si humaine volonté de maîtrise, le Sfat Emet nous propose une autre façon d'habiter notre propre vie.